Et dans best-seller, comme chaque fois, vous avez convoqué, j'aime bien le mot, ça m'amuse, vous avez invité un écrivain, une auteure plus particulièrement. Je vous laisse le soin de nous présenter, ma chère Lise.
Eh bien, on est ravis aujourd'hui de recevoir Myriam Leroy. Bonjour Myriam.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Et donc, on vous reçoit pour votre dernier roman qui s'appelle « Le mystère de la femme sans tête ». Vous avez enquêté à Bruxelles sur une oubliée de l'histoire, Marina Shafroff, décapitée durant l'occupation. Comment est-ce que vous l'avez découverte, Myriam ?
Complètement par hasard. C'était au mois de décembre 2020, donc on entamait le deuxième confinement. Et une amie voulait absolument me voir pour me faire des confidences sur sa vie amoureuse. Et comme elle ne vivait pas dans ma bulle et que nous étions dès lors contraintes de nous voir en dehors, enfin dans l'espace public, et que dans l'espace public il y avait beaucoup de voitures de police qui s'apprêtaient à nous verbaliser, je lui ai proposé que nous allions au cimetière d'Ixelles parce que je me disais que la police n'y patrouillait pas. Et c'était un simple subterfuge pour qu'on puisse se parler sans masque. Et donc, après quelques minutes, même secondes, dans le cimetière d'Ixelles, mon regard a été attiré par un ensemble de stèles identiques sur le reposoir des martyrs de la Seconde Guerre mondiale. Et on a entrepris de faire le tour de ces quelques tombes, de lire les prénoms, de lire le motif de la mort des personnes qui étaient enterrées là. Et on nous sommes rendus compte que c'était tous des hommes jeunes qui ont tous été fusillés. Et au milieu de tous ces hommes, il y avait une femme un peu plus âgée qui, elle, avait été décapitée. Et c'est ce mot, en fait, gravé sur sa pierre tombale, décapitée, qui m'a d'abord assommée et puis qui m'a passionnée.
Comment expliquer qu'elle était complètement inconnue de l'histoire, cette Marina Shafroff ?
Ça, je mets 288 pages à essayer de l'expliquer, donc ce sera difficile de le résumer ici, mais je pense qu'il y a toute une série de raisons qui avancent main dans la main. Il y a d'abord le fait que c'était une femme, et que pour toute une série de raisons, et la principale étant la misogynie ambiante, et la misogynie ambiante aujourd'hui encore, les faits d'armes des femmes et leurs faits héroïques, on leur a dénié toute charge politique, en fait. On a beaucoup fait croire que Marina avait été aiguillonnée uniquement par une pulsion individuelle. J'ai même lu quelque part que c'était simplement un crime passionnel, parce qu'en réalité, Marina, ce qu'on n'a pas dit, c'est que son histoire, en tout cas l'histoire officielle, c'est qu'elle serait un jour partie de chez elle, un jour de décembre 1941, et qu'un couteau à la main, un petit couteau de cuisine, et qu'elle serait arrivée devant le mess des officiers allemands, des fonctionnaires allemands à Bruxelles, c'est-à-dire porte de Namur, qu'elle aurait sorti son couteau et qu'elle en aurait poignardé un. Elle s'est enfuie et une semaine plus tard, elle s'est rendue à l'autorité d'occupation puisque celle-ci menaçait d'exécuter 60 otages si jamais le coupable ne se rendait pas. Et donc Marina est allée à la mort. Il y a plusieurs versions de cette histoire. Le fils, parce qu'elle avait des enfants, Marina, le dernier fils de Marina à être encore en vie, pense, lui, que c'est pas elle qui a commis le premier attentat. Mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a bien une petite femme de 33 ans, mariée et mère de deux enfants, qui, un jour de décembre 1941, est allée à la mort, en fait, volontairement, pour sauver des innocents.
Alors, vous avez du coup beaucoup travaillé. Continuez, Myriam, pardon. Vas-y.
Non, beaucoup travaillé, oui. Je ne sais pas quelle est la suite de la question.
Je disais, vous avez beaucoup travaillé sur cette période de l'occupation à Bruxelles et notamment dans la presse collaborationniste. Est-ce que vous avez été choquée de leur position ?
Alors, choquée non, puisque évidemment, on le savait. Je savais plus ou moins à quoi m'attendre, en tout cas dans les propos particulièrement haineux et virulents. En fait, je crois que ce qui m'a le plus interpellée dans la presse collaborationniste, où j'ai passé 2 ans, c'est que la détestation, notamment la détestation des Juifs, est exprimée dans des mots très contemporains, en fait. Que les mots de la haine n'ont pas changé. Et ça, c'est... En fait, ça m'a donné la sensation qu'il y avait une odeur assez semblable dans l'air aujourd'hui et hier. Et ça, c'est très troublant, par contre.
Oui, ça, c'est pas très rassurant de se dire que ça ressemble à cette période. C'est un livre très personnel, même si vous parlez donc d'une héroïne qui, a priori, n'a rien à voir avec vous. Et en même temps, il y a un point commun comme ça à tous vos livres, Myriam Leroy, sur un combat féministe. C'est aussi pour ça, j'imagine, que vous l'avez fait.
Bah alors au départ je savais en fait quand je suis tombée sur la tombe de cette femme et que j'ai lu le mot décapité, même sans savoir ce qu'elle avait fait, je me suis dit que c'était une femme qui avait dû commettre une transgression de l'ordre établi, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de femmes qui ont été décapitées durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, en tout cas, c'est la seule que j'ai eu, dont j'ai approfondi l'histoire. Donc, je me suis dit, elle a dû faire quelque chose de profondément dérangeant, de profondément rebelle. Et je crois qu'on en a besoin, en fait, de modèles féminins qui commettent des transgressions profondément dérangeantes et profondément de rebelles. En tout cas, moi, à cette époque-là de ma vie, j'en avais vraiment besoin. J'en avais besoin comme d'une béquille, comme d'une Calamity Jane à l'avant du cortège pour ouvrir la voie.
À côté de ça, je pense qu'elle vous a touché tout de même, Marina, non, Myriam ?
Oui, elle m'a beaucoup touchée, mais pour toute une série de raisons. Mais au départ, son visage m'a énormément touchée. Parce que quand on tape son nom sur Google Images, Marina Shafroff, on tombe sur le visage d'une femme. On ne sait même pas si c'est vraiment une femme ou un enfant. Enfin, elle a des bonnes joues, elle a une physionomie très, très jeune. Et puis, elle a aussi un regard qui vous défie, quoi, dans le fond des prunelles, et qui vous dit « qu'est-ce qu'il y a, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Qu'est-ce que tu me veux ?» Et ce côté frondeur, gavroche, ça m'a très fort séduite. Et puis, toute une série de choses, les lettres qu'elle écrivait à ses enfants, qu'elle écrivait à son mari, qu'elle écrivait à sa mère, ce sont les lettres d'une femme profondément amoureuse, profondément attachée à sa famille, d'une femme très pieuse aussi. Mais en fait, ce sont les lettres de quelqu'un de profondément humain. Et que ce soit son visage ou ses lettres ou ce que j'ai pu déduire d'elle en rencontrant des gens qui l'avaient connue de près ou de loin, c'est que c'était quelqu'un de profondément humain. Et ça, c'est quelque chose qui je trouvais assez absent des récits de résistance, quoi. Ce ne sont pas juste des héros, ce sont aussi des humains.
Bien sûr. Est-ce que vous vous êtes trouvé des points communs, Myriam, avec Marina ?
En tout cas, j'ai essayé par tous les moyens de m'en trouver. Et cette Marina, elle est évidemment... elle est issue autant de moi et de mon vécu. Enfin, Marina, c'est moi, en fait. Comme disait Flaubert de Madame Bovary, quelque part. Elle est façonnée de ma côte. Donc oui, je me suis trouvée plein de points communs, mais j'ai surtout trouvé plein de hasards dans mon existence et dans la sienne qui nous reliaient, notamment des hasards géographiques. Enfin, le fait qu'elle soit enterrée au cimetière d'Ixelles, qui est à 800 mètres de chez moi, et puis qu'elle ait vécu à 1 km de chez moi dans l'autre sens, qu'elle se soit domiciliée dans une chambre de Bonne, dans la rue où je travaillais à l'époque, où j'ai découvert son histoire, où sa famille a vécu ensuite dans un village du Brabant wallon, où moi-même j'ai passé énormément de temps. Je me suis rendu compte que j'avais des amis qui faisaient partie de sa famille. Enfin bref, toute une série de choses qui agissaient à chaque fois comme un wake-up call et qui me disaient « Non, tu peux pas abandonner cette histoire, tu dois continuer à la raconter. »
Oui, bien sûr. Vous parliez tout à l'heure de la haine et du vocabulaire d'aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas l'univers cyber et la cyberviolence qui habitue finalement, Myriam, le public et qui nous habitue tous à ce genre de propos ?
Bon, alors c'est sûr qu'on ne peut plus parler de la montée des discours de haine parce que maintenant les discours de haine sont complètement hégémoniques, mais en lisant par exemple le courrier des lecteurs du Pays Réel, c'est le journal du parti Rex, le courrier des lecteurs du Pays Réel n'a absolument rien à envier à tout ce qu'on peut lire d'ordurerie sur Twitter, sur Facebook. Ce sont que des imprécations hyper racistes, des invitations lancées aux étrangers à rentrer chez eux, à mourir. Des considérations hyper ordurières sur les femmes et sur tous les groupes sociaux qui aujourd'hui encore subissent de la haine. Donc en fait, c'est ça moi qui m'a étonnée, c'est que certes Internet a rendu cette haine omniprésente partout, on ne peut plus y échapper, mais elle était bien présente dans la société à cette époque-là et elle se disait sans gêne.
Oui. Pour revenir sur vos positions féministes, Myriam, est-ce que vous pensez que la situation s'améliore tout de même en Belgique depuis MeToo peut-être et depuis les combats qui ont lieu ici ?
Alors, est-ce que la situation s'améliore ? C'est difficile à dire parce que d'un point de vue judiciaire, j'ai pas l'impression. Du point de vue des discours de haine antiféministes et sexistes, j'ai pas l'impression non plus. J'ai l'impression que ça s'aggrave. Maintenant, peut-être qu'il y a plus de gens et plus de jeunes notamment qui sont conscientisés aux inégalités de genre et que des. En tout cas, je pense que la société commence à prendre conscience que les violences machistes, les violences masculines s'inscrivent sur un continuum qui va de la petite moquerie, la petite humiliation au travail à l'agression sexuelle particulièrement sordide et violente. Quoi. Que ce ne sont pas des choses défaites les unes des autres et qu'elles marchent toutes main dans la main et qu'elles sont de nature à créer un climat propice aux agressions. Et ça, je pense que ce qui était. Enfin, très longtemps, on a considéré que le harcèlement sexuel, c'était de la drague et que ça n'avait rien à voir avec le viol, par exemple, ou que les insultes à caractère sexuel ou sexiste, ça n'avait rien à voir avec le harcèlement sexuel. Enfin, on avait tout bien compartimenté. Et maintenant, j'ai l'impression que les compartiments sont en train de céder.
Alors, vous avez été journaliste très longtemps avant d'écrire vos livres, Myriam, et je ne sais pas, peut-être vous l'êtes toujours aussi en partie. Je me permets de vous poser une question d'actualité. Est-ce que vous avez vu ces excuses de Dieudonné en France hier à Touche pas à mon poste sur la communauté juive, et qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je n'ai absolument pas vu, vous me l'apprenez.
Désolée.
Et de mon point de vue, sans les avoir vus, je trouve ça suspect. Mais je rattraperai la séquence dès que nous aurons raccroché. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Bah, c'est difficile pour moi de donner mon avis, mais c'est vrai que je suis aussi circonspecte que vous, parce que Dieudonné, on n'était pas à son coup d'essai. Le bonhomme a quand même un historique de haine antisémite qui est difficile à effacer avec une lettre d'excuse lue à TPMP.
Oui, je ne sais pas ce qu'il a à gagner. Enfin, il a peut-être un besoin commercial de se refaire une virginité, je ne sais pas.
C'est possible aussi. Ouais. En tout cas, Myriam Leroy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Mystère de la femme sans tête, un excellent livre aux éditions du Seuil, courageux, bien écrit, personnel, touchant. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir été avec nous ce matin.
Merci pour l'invitation.
À bientôt.
Au revoir.
Et voilà, c'était Best-seller avec Myriam Leroy qui répondait aux questions, vous l'aurez reconnu vous-même, de Lise Benkemoun.